de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La percée de la droite extrême en Allemagne, Alternative für Deutschland, arrive en troisième position avec près de 13% des voix, plus de 80 sièges. Martin Schulz confirme ce matin que le SPD ne participera pas à une nouvelle grande coalition. Correspondance de Cyril Sauvageau, analyse du politologue Jean-Yves Camus. Les Kurdes d'Irak votent depuis ce matin sur leur indépendance. L'Iran annonce ce matin la fermeture de ses frontières avec le Kurdistan. Le président turc parle de riposter. Correspondance sur place avec Omar Waman. En France, la majorité de droite au Sénat est sortie renforcée des sénatoriales hier. Premier revers donc pour La République En Marche, très loin de ses objectifs initiaux, commentaire de Stéphane Robert. Le grand plan d'investissement qui avait été promis par le chef de l'État pendant la campagne était présenté ce matin à Paris par le Premier ministre. Il vise à lutter contre le chômage de masse, accélérer la transition énergétique et stimuler l'innovation. Toutes les précisions dans cette édition avec Anne-Laure Chouin. Et puis ce mouvement de protestation contre la réforme du Code du travail qui se poursuit avec des routiers, principalement CGT et FO, qui ont entamé ce matin un mouvement reconductible. Ils tentent de bloquer des axes de circulation des dépôts de carburant dans tout le pays. On fera un point tout à l'heure avec Guillaume Fariol, l'invité de la séquence interview, pour parler précisément de ce mouvement. Catherine Pérez, secrétaire confédérale de la CGT. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Ce livre ne traite pas des musulmans de France, il porte sur la perception dominante des musulmans dans le paysage français. C'est avec cette mise en garde que notre invitée, l'historienne américaine Joanne Scott, nous invite à réfléchir à la question du voile. La politique du voile, c'est le titre de cet essai, aux fantasmes et aux représentations qu'elle a analysées à l'aune des débats donc sur cette interdiction. On va reparler aussi avec elle. Laïcité, elle sera notre invitée à partir de 12h55.
L'Allemagne, donc, à son tour, touchée par la vague populiste et par l'érosion des deux grands partis de gouvernement traditionnels, les conservateurs et les sociodémocrates, qui ne représentent plus qu'un peu plus de 50% du corps électoral. La CDU, la CSU, obtiennent 33%, perdent 8,5 points. Le SPD est juste au-dessus des 20% et perd 5,2%. Face à eux, les autres partis progressent, les libéraux à 10,7, les Linke à 9,2 et les Verts à 8,9. Mais c'est surtout, bien sûr, la droite extrême qui progresse et qui retient l'attention ce matin. Alternative pour l'Allemagne progresse, elle, de 8%, arrive en troisième position, 12,6%, environ 80 sièges. Cyril Sauvageau, la quatrième victoire d'affilée de la chancelière est un peu éclipsée ce matin par cette poussée dont chacun s'accorde à dire qu'elle va modifier sensiblement la vie politique en Allemagne.
L'ambiance n'était pas à la fête ce matin au siège de la CDU. Première réunion de crise au lendemain des élections, l'état-major du parti conservateur doit tirer les leçons d'une victoire en demi-teinte. Avec son plus mauvais score depuis 1949, la CDU ressort du scrutin fragilisée, dépassée sur sa droite par les populistes de l'AfD qui ont su surfer sur le mécontentement d'une partie des Allemands vis-à-vis d'Angela Merkel. L'extrême droite va entrer en force au Parlement avec près d'une centaine de députés. Ce matin, les dirigeants de l'AfD, connus pour leurs coups d'éclat et leurs provocations, ont promis une opposition constructive. Mais ils n'ont pas encore réglé leur querelle interne. La coprésidente Frau Köpetri a claqué la porte en pleine conférence de presse pour marquer son désaccord avec la ligne du parti. De son côté, Angela Merkel va devoir entamer des négociations avec les libéraux et les verts pour tenter de bâtir une nouvelle coalition. Les pourparlers s'annoncent tendus et devraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Merci Cyril Sauvageau. On est en ligne maintenant avec le politologue Jean-Yves Camus. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Marine Le Pen salue ce matin la percée de l'AfD. Elle y voit un nouveau symbole du réveil des peuples européens. AfD, donc, Alternative für Deutschland, quelle ressemblance, peut-être d'abord, quelle différence avec le Front National ?
Quelle différence ? AfD est un parti beaucoup plus jeune, qui n'a commencé à se présenter aux élections qu'en 2014, donc il n'y a pas la même épaisseur historique, il n'y a pas non plus les mêmes racines historiques, puisque lorsque AfD a été fondée, c'était sur une ligne souverainiste. Les principaux dirigeants à l'époque en étaient Bernd Lucke, un économiste libéral très connu, et un grand patron de l'industrie, Hans-Olaf Henkel, patron du conglomérat du même nom, donc des gens qui n'avaient aucune histoire à l'extrême droite. Alors après, la grande différence, évidemment, c'est celle du passé de l'Allemagne, puisque la victoire de l'AfD hier est à mettre dans le contexte de cette perpétuelle peur qu'ont les Allemands de voir, avec la montée d'un parti d'extrême droite, se profiler le spectre des années 30. Hein. AfD n'est pas un parti néo-nazi, il faut le dire clairement, c'est un parti dont un certain nombre de personnalités élues hier soir ont tenu des propos controversés sur l'histoire de l'Allemagne, mais c'est pas un parti néo-nazi. Si c'était cela, d'ailleurs, il n'aurait pas obtenu 12,6%. Il y a un petit parti, le NPD, qui est sur un créneau beaucoup plus proche du néo-nazisme. Mais le néo-nazisme, ça marche pas. C'est trop gros compte tenu de l'histoire allemande. Donc AfD...
Enfin, ce sont des anti-européens libéraux, c'est comme ça que vous diriez aussi ?
Ce sont des adeptes de l'économie de marché, anti-européens, par ailleurs populistes et xénophobes, et les différents changements de direction, avec Franck Petri d'abord, avec Alice Weidel ensuite, ont accentué le côté anti-immigration, anti-réfugiés. AfD a beaucoup capitalisé sur les manifestations, vous vous en souvenez peut-être, du mouvement Pegida, qui avait essaimé dans toute l'Allemagne, notamment à l'Est, au moment de l'acceptation par Mme Merkel du flot de réfugiés. AfD a en quelque sorte organisé ce capital humain-là et l'a transformé en voix. Mais des voix, il en prend un petit peu partout, chez les abstentionnistes, évidemment chez ceux qui avaient déjà voté pour la formation en 2014, et aussi à la CDU-CSU. Il y a un transfert d'un petit peu plus d'1 million de voix de la CDU-CSU vers AfD, c'est pas négligeable, et même la CSU, qui est sur les questions sociétales notamment plus à droite que son partenaire CDU, enregistre un score finalement faible, hein, historiquement faible, puisque dans son fief de Bavière, elle est à son niveau le plus bas depuis 1957.
Merci beaucoup. Merci Jean-Yves Camus d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour commenter ces résultats. En Allemagne, la question se pose de savoir maintenant quelle coalition Mme Merkel pourra bien constituer. Le tête de liste des sociodémocrates, Martin Schulz, a confirmé donc ce matin que le SPD avait dorénavant l'intention de siéger dans l'opposition au Bundestag. Il ne reste donc plus à Mme Merkel que deux alliés potentiels, les libéraux du FPD et les Verts, pour former cette coalition des Jamaïques noirs, jaunes, verts. Mais dans tous les cas, la marge de manœuvre de la chancelière pour, par exemple, étudier les projets français de réforme de l'Europe va être très mince. On sait que les libéraux refusent toute nouvelle mesure en faveur de l'intégration de l'Allemagne et leur présence au gouvernement qui serait sans doute une des solutions pour demain, pourrait compromettre le projet de relance du moteur franco-allemand cher à Emmanuel Macron. Stéphane Robert.
Oui, on verra ce que fait Angela Merkel, hein, mais si elle intègre le FDP dans sa coalition, c'est gênant pour le président français. Il y a 2 semaines environ, le journal Le Monde rapportait des propos qu'aurait tenu Emmanuel Macron devant l'un de ses visiteurs à l'Élysée. Il aurait dit, anticipant la réélection de la chancelière, « Si Merkel s'allie avec les libéraux, je suis mort ». Parce que les libéraux allemands, vous le disiez, le FDP de Christian Lindner n'est pas du tout sur la ligne Macron pour ce qui concerne l'Europe. C'est même l'inverse. Une gouvernance politique de la zone euro hors de question. Le FDP ne veut pas renforcer la solidarité entre pays européens. Il plaide même pour une sortie de la Grèce. Il estime également que chaque pays doit être responsable de son marché du travail, de sa protection sociale. On est là encore très loin des idées d'harmonisation chères à Emmanuel Macron, notamment sur l'assurance chômage. Et si jamais un pays sort des clous budgétaires, les fameux 3%, sans ce que fait la France régulièrement, les libéraux allemands sont favorables à des sanctions financières automatiques. On voit donc mal comment Angela Merkel, lestée de tels alliés, irait dans le sens d'une transformation du projet européen cher au président français. Et le problème pour Macron, c'est que la transformation de l'Europe, c'est la contrepartie aux réformes qu'il estime nécessaires et qu'il a entamées en France avec les ordonnances sur le Code du travail. Dès lors, s'il n'y a plus de contrepartie, comment justifier et faire accepter ces réformes ? Sur ce plan-là, ça se complique singulièrement pour Emmanuel Macron.
Voilà, on entendra le président demain sur ce thème. Déjà, l'Élysée affirme que le chef de l'État va proposer demain donc un renforcement de l'union économique et monétaire. Reste à savoir quel écho il trouvera effectivement en Allemagne. Il y a une autre limite peut-être qui a été touchée dans les ambitions présidentielles, c'est la capacité à réviser la Constitution, puisque la majorité de droite au Sénat, on est donc revenu en France, est sortie renforcer les sénatoriales et c'est un revers très net pour La République En Marche, qui est très loin de ses objectifs initiaux. sociaux. Alors du coup, la perspective de pouvoir réviser la Constitution par voie parlementaire qui nécessite un vote de la majorité des 3/5 des deux chambres semble boucher cette perspective. Et le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, indique même que M. Macron assumerait la possibilité qui avait été évoquée en juillet à Versailles de recourir au référendum. Mais ça pourrait être sur ce plan, comme toujours pour ce genre de consultation, un risque politique important, Stéphane Robert.
Oui, pas de majorité des 3/5. Emmanuel Macron assume, dit le porte-parole du gouvernement ce matin, il serait prêt à recourir au référendum. On a aussi des propos plus prudents, beaucoup plus prudents, du secrétaire d'État Benjamin Griveaux, lui aussi un proche du président, qui tempère ce matin ce qui ressemble à une nouvelle bravade. Pour réduire le nombre de parlementaires, disait-il sur RTL, il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle, une simple loi suffit. De fait, il a raison, la Constitution prévoit un maximum de 577 députés, mais pas de minimum. Même chose pour les sénateurs, 348 maximum, on peut donc en réduire le nombre. En revanche, il faut une réforme de la Constitution pour limiter le cumul des mandats dans le temps. Autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et s'il n'a pas les 3/5 pour le faire, il faudra recourir au référendum ou ne pas le faire. Mais là, c'est peu probable. Ce serait trahir sa promesse et sa parole. Référendum donc. Seulement, sous la 5e République, c'est extrêmement risqué. On l'a vu avec De Gaulle en 69, avec le traité constitutionnel européen en 2005. Le problème de Macron, c'est qu'il semble avoir la tentation de répéter en permanence le miracle de son élection. On lui prédisait que ça ne marcherait pas. Il l'a fait. Dès lors, tout lui paraît possible. L'opposition n'existe pas, ni dans la rue, ni au Sénat. Il se permet de la négliger, de l'aiguillonner, comme pour mieux la dédiaboliser et montrer son impuissance. Attention quand même, parce qu'à ce rythme-là, la fusée Macron pourrait bien brûler son capital politique à vitesse accélérée. Et du coup, gare à l'atterrissage forcé.
Merci Stéphane Robert. 12h42, les Kurdes d'Irak votent depuis ce matin sur leur indépendance, référendum qui pourrait ouvrir la voie à un État pour lequel les Kurdes luttent depuis au moins près d'un siècle. Résultat du scrutin qui ne fait pas de doute en fait, puisque la majorité des Kurdes d'Irak est acquise au oui, donc à l'indépendance. Le président de la région autonome actuelle, Massoud Barzani, prévient que le vote ne va pas entraîner immédiatement l'annonce de cette indépendance, plutôt le début de discussions sérieuses, dit-il, avec Bagdad, mais la plupart des pays de la région, comme d'ailleurs de la communauté internationale, s'oppose à ce scrutin. L'Iran annonce la fermeture de ses frontières avec le Kurdistan. Le président turc va se rendre la semaine prochaine à Téhéran pour évoquer donc la riposte à la tenue de ce scrutin. Mais déjà, il parle de fermer lui aussi sa frontière et principalement de bloquer les exportations de pétrole du Kurdistan irakien. Omar Waman, à quelle réaction globale faut-il s'attendre ?
Pour asphyxier économiquement le Kurdistan, le pouvoir central de Bagdad compte sur ses voisins iraniens et turcs, deux pays qui partagent une frontière avec la région autonome et qui craignent un effet contagion sur leur propre minorité kurde. La première mesure de représailles est venue de Téhéran, qui a suspendu les vols au départ et en provenance des deux aéroports internationaux du Kurdistan, Erbil et Souleymaniye, un blocus aérien à la demande du pouvoir central de Bagdad, qui a bien l'intention de faire payer aux autorités kurdes leur refus d'annuler ce référendum. Les yeux sont désormais tournés vers la Turquie, qui a averti à plusieurs reprises que ce scrutin aura un prix. Ankara a les moyens d'étouffer cette région enclavée du Kurdistan, car c'est la seule porte qui permet à Erbil d'exporter son pétrole. Si les Turcs décidaient de couper l'arrivée de ce pétrole kurde, les conséquences seraient catastrophiques pour cette région, dont la manne pétrolière représente l'essentiel de ses revenus.
Sur la genèse de l'idée d'un territoire autonome kurde, vous trouverez sur le site de France Culture un article complet d'Éric Biegala intitulé « Vers l'indépendance, le Kurdistan politique en 5 dates ». Le Premier ministre japonais Shinzo Abe annonce la tenue d'élections législatives anticipées, tentative de prolonger son mandat au moment où s'exacerbent les tensions avec la Corée du Nord. Donald Trump a étendu à la Corée du Nord précisément, mais aussi au Venezuela et au Tchad, les interdictions d'entrée sur le territoire américain dans le cadre d'un nouveau décret sur l'immigration. Les ressortissants de l'Iran, de la Libye, de Syrie, du Yémen et de Somalie restent aussi concernés par ces restrictions. Mais aux États-Unis, c'est le bras de fer qui s'engage entre toute la communauté sportive et Donald Trump. Il y a plusieurs manifestations qui se reproduisent lors de différents matchs. On va peut-être demander son avis à notre invité de la dernière partie de la grande table, Joanne Scott. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne donc américaine. Là, on a l'impression, autant il y avait des oppositions un peu sporadiques comme ça qu'on voyait poindre contre Trump. Là, c'est quelque chose qui est très visible puisque le sport évidemment tient une grande place aux États-Unis comme en France. Comment vous voyez ce bras de fer assez surprenant qui s'engage entre les sportifs d'une part et Trump?
Il n'y a rien de surprenant avec Trump. Et c'est vraiment chaque jour il y a autre chose. Mais je crois qu'on peut le prendre comme exemple de l'effet de Trump sur le pays. Au lieu de unifier le pays, il a fait le contraire. Il a intensifié les clivages. Et l'exemple des footballeurs est très intéressant parce que, en général, les propriétaires des équipes sont des hommes blancs, riches, républicains. Et les joueurs sont des hommes noirs pour la plupart. Mais la source de l'argent des propriétaires des équipes, c'est les joueurs. Donc, ils ont pris la partie de leurs joueurs contre Trump. Et ça démontre la division, même parmi les gens républicains, les gens qui étaient avant pour Trump, dans le camp de Trump.
C'est vrai, pour une partie des chefs d'entreprise, effectivement, aussi.
Exactement.
Aux États-Unis. Yoann Scott, merci beaucoup. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
1h15 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, le grand plan d'investissement promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne, présenté ce matin à Paris par le Premier ministre. Il vise à lutter contre le chômage de masse, accélérer la transition énergétique et stimuler l'innovation.
Et oui, c'est sur l'ensemble du quinquennat, ce plan qui prévoit 57 milliards d'euros donc d'investissement, 20 milliards pour la transition écologique, 9 milliards pour la transformation numérique de l'État, 15 milliards pour la formation, 13 milliards encore à l'innovation. Rapport remis donc au Premier ministre, un gouvernement qui assure que le plan n'aura pas d'effet sur le déficit public. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
En question, d'où viennent ces 57 milliards d'euros?
Alors la plus grosse partie, 45 milliards d'euros, sera constituée de nouveaux financements sous la forme de prêts, de fonds de garantie et de fonds propres. En gros, de l'argent emprunté notamment auprès de la Caisse des dépôts qui sera en première ligne. Et puis la Banque européenne d'investissement sera également beaucoup plus sollicitée qu'avant. Et puis la somme sera constituée de financements qui étaient déjà prévus, notamment ceux des plans d'investissement d'avenir lancés par les précédents gouvernements. 12 milliards d'euros de crédits existants seront, eux, réorientés. Reste à savoir à qui ils étaient initialement destinés et qui leur réallocation va par conséquent mécontenter. Enfin, il faut savoir que sur la somme totale, 10 milliards d'euros seront confiés aux collectivités territoriale, dont 1 milliard aux Outre-mer. Alors que la France emprunte à faible taux sur les marchés, que les prévisions de croissance ont été revues à la hausse et que la partie formation de ces investissements pourrait avoir des effets à court terme, la période est idéale selon Jean Pisani-Ferry, le chef d'orchestre de ce plan d'investissement. Période idéale donc pour lancer un tel chantier. Voilà pour le financement. Quant aux objectifs, le premier est d'accélérer, vous l'avez dit, la transition énergétique avec un important volet sur la précarité énergétique. 2 millions de foyers sont en situation de précarité thermique. 3 milliards d'euros leur seront alloués via la Caisse des dépôts pour rénover le logement social. Autre objectif dont le gouvernement espère bien qu'il aura rapidement des effets concrets sur la croissance, l'investissement dans la formation. Formation qui visera en priorité les 1 million de chômeurs les plus éloignés du marché du travail et les 1 million de jeunes décrocheurs scolaires. Enfin, l'État doit faire des économies de fonctionnement et c'est par la numérisation des services publics que cela va passer notamment, ainsi que par l'innovation qui, dans tous les secteurs, devra permettre de faire mieux pour moins cher.
Anne Lorchouin, merci beaucoup. Faire mieux pour moins cher, c'est un peu la logique qui nous est proposée aujourd'hui. Catherine Perret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. On va parler avec vous de ce mouvement des routiers dans un petit instant. Mais sur ce plan, il vous paraît symptomatique de la politique globale économique menée par le gouvernement?
Mais oui, on a l'impression que c'est du déjà vu. 4 plans d'investissement ces 10 dernières années. Jean Pisani-Ferry qui était à France Stratégie du temps de Hollande. Donc, il ne nous semble pas qu'il y ait du nouveau sur ces investissements annoncés. En tout état de cause, ce qu'on a pu y voir là depuis ce matin, c'est, j'irai 3 choses. On va demander à nouveau une réforme de la formation professionnelle alors qu'on a à peine mis en place la précédente réforme qui, je rappelle, est de 2014. La CGT n'avait pas signé cette réforme, d'ailleurs avec l'organisation patronale qui représente les petites et moyennes entreprises, la CPME. On avait expliqué pourquoi et il nous semble que ce qui se prépare ne va pas dans le bon sens. Parce que la formation ne crée pas l'emploi, on ne va pas automatiquement, parce qu'on va renvoyer des gens en formation, créer des emplois. Il faut un plan d'investissement d'activités économiques importants. Et pour faire le parallèle avec la recherche qui est annoncée aussi, plan d'investissement recherche, quid de l'investissement des entreprises en matière de recherche-développement, alors qu'on sait que les entreprises justement désinvestissent depuis des années dans ce domaine. Donc beaucoup d'interrogations. En tout cas, on a l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux et que c'est toujours une politique libérale et d'austérité qui est mise en place.
C'est un monde nouveau qu'on nous annonce aussi. Et alors on en revient à cette réforme du code du travail. Des routiers qui sont donc principalement CGT, Force ouvrière, entament ce mouvement qui est un mouvement reconductible qui vise à bloquer les actes de circulation mais aussi les dépôts de carburant dans toute la France. Le début du mouvement est à la hauteur de nos attentes, se félicitait ce matin le numéro 1 de la CGT Transport, qui avait recensé donc vers 10h plus de 40 points de blocage. Où en est-on à midi, Guillaume Fariol ?
Eh bien, des centaines de routiers mènent en ce moment des actions à La Rochelle, à Nantes, à Caen, à Lyon. Certains dépôts de carburant sont totalement bloqués, c'est le cas à La Mette, près de Marseille. Plus rien n'entre ni ne sort, assure la CGT. Pareil au dépôt du Grand Quevilly, près de Rouen. Un site stratégique, la préfecture de Seine-Maritime fait d'ailleurs état de pénurie dans des stations service de ce département. Mais la mobilisation est plus compliquée que prévu. Les forces de l'ordre très présentes empêchent les manifestants de s'installer durablement aux abords des dépôts de carburant et des raffineries. Bruno Lefebvre, secrétaire général adjoint de FO Transport, évoque même une réaction des autorités plus rapide et plus forte que d'habitude. Finis donc les blocages à Gennevilliers, à Bordeaux ou encore à Donges, en Loire-Atlantique. Les grévistes abandonnent les dépôts de carburant pour bloquer des ronds-points ou mener des opérations escargots. Les syndicats se félicitent tout de même de cette mobilisation, qualifiée d'importante par Force ouvrière. Pas du tout, répond le patronat. Jean-Marc Rivera, président de l'Organisation des transporteurs routiers européens, évoque une mobilisation faible, quelques centaines de manifestants seulement pour un secteur qui compte plus de 300 000 salariés.
Guillaume Fariol, merci beaucoup. Retour vers vous, donc Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT. On a le sentiment que ce mouvement général contre la réforme du Code du travail est en train de patiner un petit peu. Certes, il y a encore des forces à mettre dans la bataille, mais elles sont éparses et finalement pas si puissantes. On ne voit pas comment elles pourraient converger. Sur cette grève des routiers ce matin, ces mouvements, est-ce que vous avez, vous, un sentiment d'une opération réussie? Parce que la police aussi a l'air d'être sur le coup, sur les dents, avoir anticipé beaucoup de vos actions.
Alors, les salariés de la route sont très en colère, effectivement, vous l'avez dit, 40 points de mobilisation. Je rappelle quand même que les salariés sont en grève. Ils ne cherchent pas à bloquer l'économie, ils sont en grève. Leur outil de travail, c'est sur la route.
Quand même, donc, ils vont bloquer les dépôts de carburant.
Ils filtrent les dépôts de carburant, c'est leur gagne-pain. Donc, il y a aussi des salariés en grève, y compris dans les dépôts de production d'essence et de livraison d'essence. Il n'y a pas que les routiers qui sont en grève aujourd'hui. Comme vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, la majorité des salariés condamne cette loi travail et manifeste par des actions de grève. C'est un processus de mobilisation qui ne faiblit pas et au contraire s'exprime de manière différente chaque semaine. Je voudrais prendre un seul exemple quand même pour qu'on comprenne bien pourquoi les salariés très nombreux sont en colère. Un routier, 10 ans d'ancienneté, 1 800 € bruts. Par mois, c'est pas beaucoup pour un nombre d'heures important, au-delà même des 35 heures légales. Ce qui est en cause avec la loi travail que Macron a voulu signer à grand renfort de médias vendredi, eh bien, c'est une redéfinition de la prime d'ancienneté, par exemple, dans le secteur du transport, pour faire baisser le salaire d'un routier de 1 800 € à 1 700 € bruts. C'est 100 € mensuels de moins. C'est pour ça qu'ils sont en colère, les routiers.
Pourquoi et ça les touche plus particulièrement, en fait?
Ça les touche plus particulièrement parce qu'une grosse partie de leur salaire est constituée par des primes et par des heures supplémentaires. Mais c'est vrai aussi dans le commerce, par exemple. Et d'ailleurs, les salariés du commerce ont annoncé qu'ils allaient se mettre en mouvement à partir de demain dans de nombreux entrepôts, dans de nombreuses industries du commerce. Donc, en fait, cette loi travail, elle est destinée à faire baisser le coût du travail qui est présenté comme un obstacle à la compétitivité par Gattaz et le MEDEF. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en colère. C'est parce que c'est du salaire en moins, des heures en plus, des conditions de travail plus difficiles. Et donc moi j'attends que l'ensemble des salariés prennent conscience des difficultés que vont rencontrer demain les salariés si les ordonnances sont ratifiées par le Parlement, ce qui n'est pas encore le cas. je vous le rappelle, on peut continuer de se battre puisque
enfin, maintenant elles ont été signées, elles sont quand même en application.
Elles sont en application, mais il faut une ratification et c'est les députés qui et les sénateurs qui auront en charge de le faire.
Puis il y aura peut-être d'autres occasions de vous opposer à la politique gouvernementale, j'imagine.
Il y a déjà une mobilisation le 28 septembre pour les retraités qui vont perdre beaucoup d'argent aussi avec le transfert de la CSG et puis la semaine du 10 octobre une grosse mobilisation des fonctionnaires qui ont aussi bien des raisons de s'inquiéter, notamment à l'annonce du plan d'investissement qui prévoit des restructurations dans la fonction publique qui vont être saignantes.
Catherine Perret, merci beaucoup, secrétaire confédérale de la CGT, d'avoir accepté notre invitation. Encore une brève pour vous annoncer que la France confirme son intention de réduire progressivement l'utilisation dans l'agriculture de l'herbicide controversé glyphosate, le plus vendu au monde. Mais la France peine toujours à annoncer clairement une stratégie de remplacement et surtout une date effective pour cet arrêt. En tout cas, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, estime qu'il est hors de question que la France prenne une position unilatérale sur la question. Un temps généralement couvert et pluvieux, des températures en baisse, 18 à 22 sur la plupart des régions, 22 à 26 près de la Méditerranée. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.